Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, les bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Nous allons aujourd'hui nous consacrer notre émission à Sergueï Vassilievitch Rachmaninov, qui est né le 1er avril 1873, compositeur russe qui mourra en 1943, donc à cheval entre les 19e et 20e siècles. Rachmaninov est sans doute le dernier des grands romantiques russes et peut-être des grands romantiques tout court. Son œuvre, en effet, est d'un romantisme hérité de ses grands modèles, dont Bruno parlera plus avant, Chopin, Rimsky-Korsakov et surtout son idole Tchaïkovski. Il reste un peu indifférent à l'évolution musicale de son époque. Il ne va pas verser dans, je dirais, l'extrême modernité que pratiqueront d'autres compositeurs. Et il va manifestement montrer des dons évidents pour la musique, né d'un père officier de l'armée russe, d'une mère fille de général. Il a la chance de pouvoir recevoir des leçons de piano et de musique, je dirais à domicile, dans cette partie de la petite noblesse russe. Il est donc à 4 ans, pendant 2 ans, sous la férule d'une très bonne enseignante de musique, amie d'Anton Rubinstein. Et malheureusement, les difficultés financières du couple, parce que le père a tendance à aimer le jeu, et notamment les chevaux, vont obliger la famille à emménager à Saint-Pétersbourg, où là, il va être vraiment sous l'affection de sa grand-mère, Anya Boutankova, qu'on surnomme Babouchka. Il va découvrir avec les cloches de Novgorod le chant orthodoxe. Et ces années de formation sont absolument extraordinaires. Pour lui, il manifeste des dons évidents. Et il va ensuite rentrer au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Où là, Bruno nous en parlera, il rencontrera des professeurs et des compositeurs éminents, dont Zverev notamment, qui héberge chez lui dans une sorte de pension ses élèves les plus doués. Et il va commencer à composer avec des dons dont je parlerai un petit peu, des dons pianistiques exceptionnels. Et il commence une petite carrière qui sera ensuite une très grande carrière de virtuose et de compositeur. Il va, vous allez l'entendre, composer entre autres un prélude. Il va composer 24 préludes comme Chopin et comme d'autres. Mais son prélude en ut dièse mineur qui va lui assurer, je dirais, une renommée mondiale et pratiquement éternelle.
Thank you. Nous l'avons vu, Serge Rachmaninoff est né dans une famille aristocratique, au départ très riche, en tout cas dans un milieu favorisé où la culture était importante, où les manières étaient importantes. Et s'il a vécu des années un peu chaotiques avec son père qui a dilapidé la fortune, notamment la fortune de sa mère, mère d'ailleurs peu aimante et peu affectueuse envers lui, donc il a vécu quelques années un petit peu difficiles, alors que tout concourait, de par son statut social, à un bien-être et à beaucoup de faveurs. Mais il a fallu qu'il surmonte tout ça, et tout ça est arrivé grâce à son cousin Cilotti, élève de Liszt, qui l'a propulsé à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg à Moscou, où là il a rencontré le professeur Zverev, homme étonnant, grand professeur de piano, qui était d'une grande rigueur mais d'une grande générosité. Les élèves habitaient chez lui. C'est un monde qu'on n'imagine même plus aujourd'hui, de nos jours. Il était entouré par ses élèves, il s'occupait d'eux, il les faisait travailler, il les sortait, il les emmenait au concert. Il était environné comme ça de personnages extraordinaires pour qui la musique comptait plus que tout. Il y eut le professeur Arensky, professeur d'harmonie, il y eut Cilotti bien sûr, Zverev donc, et puis un très grand professeur qui s'appelait Taneyev. Taneyev qui avait été un professeur qui avait même enseigné à Tchaïkovski et qui a enseigné à Rachmaninov et à Scriabine. Tchaïkovski était à l'époque la figure tutélaire, le grand compositeur, avec des querelles un petit peu entre le groupe des cinq, les pro-russes, les Tchaïkovski qui s'inspiraient beaucoup de la musique russe, mais aussi de la musique allemande. Donc Tchaïkovski était vraiment le compositeur de référence russe. Mais Taneyev, qui n'était probablement pas un génie, était un compositeur de grand talent et en tout cas un très grand professeur. Et nous allons écouter l'andante de sa symphonie numéro 2, qui va nous plonger dans la grande qualité d'une mélodie telle que Rachmaninov s'en imprégnera. Et puis la construction, tout ça est très 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 bien écrit. Ça fait penser, sur un plan, je dirais, d'égalité, à l'écriture de Saint-Saëns. On est là dans vraiment la domination de la forme musicale et l'inspiration pour la mélodie. Écoutons Taneyev, la deuxième symphonie, son andante.
Thank you.
Donc en 1882, Rachmaninov entre à 9 ans au conservatoire de Saint-Pétersbourg, avec une éducation musicale extrêmement solide et j'allais dire extrêmement sévère. Le piano commence à 6 heures du matin, mais avec une ouverture d'esprit extrêmement large sur l'opéra, sur la littérature, sur le théâtre et bien sûr sur les concerts. Il va rencontrer d'anciens élèves de Liszt, comme Szilotti, il va rencontrer Scriabine, qui sera un de ses amis et qu'il perdra malheureusement tôt. Et à 20 ans, commence une carrière brillante de virtuose et de compositeur. Pendant plusieurs années, il va subir une très grave dépression nerveuse, il est anxieux, il n'est jamais content de son travail, c'est quelqu'un de très modeste, malgré ses dons absolument incroyables. Et il va composer une œuvre majeure qui va être son deuxième concerto pour piano, qui va être un succès et également absolument mondial, qui ne s'est jamais démenti. Et là-dessus, Bruno est intransigeant sur la qualité de cette œuvre. Il a bien raison, parce que si on le contrarie à ce sujet, c'est quasiment un casus belli. Donc je suis tout à fait content d'être parfaitement d'accord avec lui. Voilà. Il va vivre 15 ans de grand bonheur en Russie, en gros jusqu'en 1915, 15 belles années, avec d'immenses succès, avec aussi son troisième concerto, qu'il jouera sous la direction, entre autres, de Gustave Mahler. Voilà, c'est absolument une période bénie de sa vie, lorsqu'il sortira malgré tout de sa dépression, où l'inspiration et le bonheur vont revenir. C'est une cantate, c'est la sonate pour piano et violoncelle. Voilà, ce sont des œuvres qui sont restées dans le répertoire. Donc nous allons écouter maintenant cette œuvre sacrée pour Bruno et pour d'autres, qui est le deuxième concerto pour piano, le premier mouvement. Ces années de bonheur en Russie et de grande créativité vont malheureusement être largement contrariées par la révolution bolchévique qui va le contraindre à quitter définitivement son pays natal. Il part aux États-Unis, il fait des tournées en Europe, mais il part aux États-Unis. Il faut savoir que la révolution bolchévique va bannir sa musique, qui est forcément rétrograde, jusqu'en 1934 d'ailleurs. Et donc il va rencontrer, à 34 ans, il va s'engager dans une nouvelle vie, qui est une vie de virtuose. De virtuose à temps complet et plus que complet. Il gagne vraiment sa vie par ses concerts, qui sont prodigieux. Et il fait une rencontre tout aussi prodigieuse, la rencontre de Vladimir Horowitz, à qui nous avons déjà consacré une émission, ce grand pianiste russe, qui lui aussi s'est exilé. Ils se rencontrent aux États-Unis et c'est une fascination mutuelle. Horowitz tient Rachmaninov pour un dieu et Rachmaninov tient Horowitz également pour un dieu du piano dont il considère qu'il est le seul, notamment, à avoir compris parfaitement les deux concerti principaux, le deuxième et le troisième. Et il s'admire tellement que lorsque Horowitz veut jouer aux États-Unis et qu'en même temps ses programmes correspondent à ceux de Rachmaninov, Horowitz fait intégrer dans ses contrats une clause selon laquelle, si Rachmaninov joue, lui, il ne joue pas. Il ne veut pas contrarier la carrière de Rachmaninov. Donc c'est vraiment une admiration mutuelle absolument, absolument prodigieuse. Et nous allons... tellement prodigieuse que nous allons écouter forcément, bien entendu, Un extrait du troisième concerto de Rachmaninov, qui est l'une de ses œuvres majeures également, restée dans l'histoire et dans les programmes musicaux.
Bien sûr, nous avons écouté les deux concertos phares de Rachmaninov, le deuxième et le troisième. Le premier, œuvre de prime jeunesse, a une introduction fantastique. Il est très beau, une cadence extraordinaire au niveau pianistique. Le quatrième est très intéressant, un peu hermétique. Mais le deuxième et le troisième ont fait sa renommée. Il les a d'ailleurs beaucoup joués. Mais Rachmaninov n'a pas écrit que des concertos. Il a écrit, Paul l'évoquera plus tard, beaucoup d'œuvres pour le piano, bien sûr, puisqu'il était pianiste et concertiste. Mais il a écrit aussi des symphonies et des œuvres chorales. Il a écrit des symphonies. La première a été un échec retentissant lorsqu'il était jeune élève en Russie, à cause de Glazounov, le chef d'orchestre, qui a massacré son œuvre. D'ailleurs, toutes les critiques que nous pouvons lire aujourd'hui dans la presse le relève. Elle relève que l'œuvre n'a pas été mise en valeur, que probablement l'œuvre avait des qualités, mais que Glazounov l'avait massacrée par peut-être jalousie, on ne sait pas bien, en tout cas mépris. Rappelons que nous avons déjà, lors d'une émission, parlé de Glazounov, puisque Gershwin, qui était allé le consulter, Gershwin, très connu aux États-Unis et magnifique compositeur, très original, était allé voir Glazounov comme on va voir un maître, en lui disant « Maître, j'aimerais apprendre le contrepoint ». Glazounov, méprisant, lui avait dit « Monsieur, vous ne saurez jamais ce que c'est que le contrepoint ». Pauvre Glazounov, dont on n'écoute pratiquement plus les œuvres aujourd'hui, alors qu'on écoute celle de Rachmaninov qu'il a gâchée, et beaucoup celle de Gershwin aussi. L'histoire a fait son tri. Nous allons maintenant écouter un extrait landant de la deuxième symphonie, où on va reconnaître, sinon l'influence, tout au moins la technique de Taneïev, dont je parlais pour sa symphonie aussi, où là on a une introduction d'un romantisme extraordinaire suivi d'un thème extrêmement long. On dit quelquefois que c'est le thème le plus long des œuvres composées, un thème très russe et un thème très nostalgique, un thème très Rachmaninov d'une grande beauté. Écoutons l'andante de la deuxième symphonie.
donc Rachmaninov vit de son piano, de ses concerts, qu'il compare parfois à des travaux forcés, qui l'épuiseront d'ailleurs. Et il a une virtuosité technique particulière parce que très peu de pédales, il ne noie pas la musique sous la pédale. Et puis surtout, il a des mains, il faut en parler, il a des mains qui sont exceptionnelles dans l'histoire du piano et des pianistes. Il a des mains qu'on peut qualifier de gigantesques, de presque géantes. Il fait ce qu'on appelle des accords de 13e. Une octave, c'est 8 notes, par exemple du Do au Do suivant. Eh bien, lui, il va jusqu'au La de l'octave suivante. C'est-à-dire, ce sont des mains absolument prodigieuses, restées gravées dans l'histoire de la musique et des interprètes. Il va donc être... il ne pourra pas revenir en Russie. Et il va finir sa vie en décédant à 69 ans. Au terme de tournées harassantes qui l'empêche de composer un peu parce qu'il ne produit pas une œuvre considérable, en qualité bien sûr, mais en quantité non, moins d'une centaine d'œuvres. Et donc il va terminer sa vie, alors que c'est un bon père de famille, il veut revoir sa fille Tatiana, il ne la reverra pas, et il va être enterré aux États-Unis, puisque conformément à ses dernières volontés, il est enterré dans l'État de New York. Nous allons écouter une œuvre majeure, bien sûr, pour le piano. Ce sont les variations Paganini, enregistrées Bruno Vuffort à la liste, par un très grand interprète, malheureusement disparu, Nicolas Angelich. Voilà. Thank you.
Nous venons d'écouter une nouvelle œuvre très lyrique pour piano et orchestre de Rachmaninoff, les variations sur un thème de Paganini. Notons au passage que ce thème a été très utilisé pour faire des variations, en l'occurrence au minimum par Liszt ainsi que par Brahms. Donc on est là sur un thème qui a fait l'objet de beaucoup d'œuvres comme support. Mais donc, nous le disions, après que Paul ait rappelé que Rachmaninoff était un grand concertiste, un grand pianiste et qu'il a beaucoup écrit pour le piano, il a écrit des symphonies, nous l'avons dit plus tôt, et il avait écrit aussi beaucoup lors de sa jeunesse des œuvres pour voix, voix et orchestre, un premier opéra à l'Écho qui avait été vraiment encensé par Tchaïkovski, qui avait d'ailleurs proposé au jeune Rachmaninoff de faire produire cet opéra accompagné par un autre opéra de Tchaïkovski qui est en cours. Les deux œuvres étant courtes, pouvaient faire l'objet d'un seul concert. On voit que Tchaïkovski avait marqué de son attention l'œuvre du jeune Tchaïkovski, et à cette époque il a écrit, du jeune Rachmaninoff, pardon, et à cette époque il a écrit aussi une œuvre qui est restée fameuse, qui s'appelle Les cloches, sur un poème d'Edgar Allan Poe, œuvre qui va faire débat lors de la Russie soviétique, puisqu'en 1931 elle a été produite en Russie et elle a été attaquée par la presse comme étant l'œuvre d'un émigré. On voit là le sectarisme de beaucoup de régimes, et donc Rachmaninoff ayant commis la trahison de quitter la Russie natale, ce dont il a d'ailleurs beaucoup souffert, était mis sur la touche dans son propre pays. On aura le cas pour Horowitz, qui a été un grand promoteur des œuvres de Rachmaninoff, qui lui-même est revenu dans les années 80 à la chute du régime soviétique pour jouer à Moscou un concert très émouvant, parce que nombre de Russes très âgés sont allés le voir en ayant gardé en mémoire la trace de son fulgurant départ en Russie. Fulgurant départ pianistique avant de quitter la Russie. Donc écoutons maintenant Les cloches dans un extrait accompagné par un baryton. Et donc vous verrez que c'est une très belle œuvre vocale. Thank you. nous avons écouté lors de cette émission tout d'abord l'œuvre la plus connue de Rachmaninov, son prélude, le premier prélude, joué par lui-même, œuvre qui ne lui rapporta pas de droit d'auteur, il l'avait vendu pour 20 roubles jeune étudiant, mais il ne le regrettait pas car ce prélude fort joué l'a introduit partout et notamment aux États-Unis et en Angleterre. Puis nous avons écouté l'andante de la deuxième symphonie de Taneïev par l'orchestre de la radio du RSS dirigé par Rodzhevzhensky, puis le deuxième concerto par Hélène Grimaud, le deuxième mouvement, le troisième, la cadence et le final par Horowitz et Alfred Coates, deux émigrés russes, puis l'andante de la deuxième symphonie par le Philadelphia Orchestra dirigé par Eugène Normandie, ensuite une variation des variations Paganini par le regretté Nicolas Angelich qui est décédé il y a quelques mois, et enfin les cloches, un extrait des cloches chanté par Grégoire Bertin avec la Philharmonie de Paris. À bientôt pour une prochaine émission où nous allons revenir au cinéma avec Maurice Jarre.